Bonjour. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors comme ça, je dois vous présenter ce casque. C'est pas le plus qui paraît le plus attrayant, hein, d'abord. Vous m'avez rendu la tâche un petit peu compliquée, mais ça va. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je réalisais ce matin combien j'avais de la chance, en fait. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, ou parfois l'occasion en tout cas, d'aller voir d'autres églises, comment elles vivent leur culte. Moi, en fait, plus tellement, j'ai choisi de recentrer un petit peu mes activités. Je n'accepte plus tellement ce genre d'invitation. C'est un peu une exception aujourd'hui. Mais le revivre une fois, je me rends compte combien c'est bon de voir une église vivre, respirer. Parfois, notre regard, il voit sur le long terme, quand on regarde quelque chose longtemps, on voit surtout les défauts. D'autres personnes, peut-être, ont un regard différent. Ils voient beaucoup les défauts au début et après, ils voient les qualités, je ne sais pas. Mais il y a ce risque de voir surtout les défauts. Et quand moi, je viens ici, je dis « Waouh !» Chez nous, à Échalon, c'est super bas. Ce n'est pas très haut, le plafond. Alors, je ne sais pas, c'est presque... Alors, ici, c'est trop bien. Et peut-être que vous en avez marre, ou bien de cette fresque. Et moi, je viens ici, je dis « Waouh !» Et j'ai l'impression que Dieu me parlait pendant ce moment aussi, parce que ce n'est pas seulement mes impressions à moi, mais que Dieu était fier de votre dignité, qu'il encourageait la dignité qui se manifeste. Je trouve que c'est impressionnant chez vous. Il y a un respect, une fidélité dans la foi, une noblesse qui se dégage de votre assemblée, et c'est beau à voir. Alors je vous le dis, et puis recevez-le aussi de la part de Dieu. Et puis quand en venant ce matin, j'ai pensé au psaume 127, et je vous le lis parce qu'il est rapide. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain les sentinelles veillent. Oui, il est vain de se lever tôt, de se coucher tard, et de se donner tant de peine pour gagner son pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Ça parle ici de construire d'une façon qui est selon le cœur de Dieu, à savoir de compter d'abord sur Dieu en premier. Moi, j'aimerais honorer les responsables qui dirigent cette communauté. Je sais que quand je vais quelque part, de venir et de donner un petit quelque chose, c'est une tâche facile. Il est bien plus difficile de prendre soin d'une communauté sur le long terme. Alors, j'honore ceux qui le font. Ici, les leaders, Pim qui m'a invité, parce que bonjour Pim, je t'ai pas encore dit bonjour, qui m'a invité parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et puis, je les connais pas tous les leaders, mais je connais encore Monique, Kavin, c'est ça. Parce que j'ai lu ici que c'était une des leaders qui s'occupait des nettoyages. Merci pour tout ce que vous faites, parce que c'est important. Elle est là, Monique? Voilà. Alors, merci à tous ces leaders. Moi, je suis honoré de la confiance que vous me faites en m'accueillant ici. La suite du psaume, c'est « Des fils, voilà bien un héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un archer, les fils de jeunesse. » Heureux l'homme qui, dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte quand il plaidera contre l'ennemi aux portes de la ville. Et puis, c'est bien parce qu'en arrivant ici, j'ai reçu votre petit journal. Puis il est parlé que c'est un des éléments importants de votre communauté de vivre cet intergénérationnel. Et je trouve que c'est un très bon choix que d'insister, que d'essayer de maintenir cela malgré les difficultés que ça représente. Je viens d'une église où on travaille à plusieurs parce que c'est relativement grand. Et puis, il y a plein d'enfants. Je viens d'Échalon. Dans la région, c'est une région avec beaucoup de familles. Puis notre église s'est petit à petit développée avec plein d'enfants. Donc, ils sont 200 en dessous de 20 ans. Et moi, j'ai le mandat avec mon épouse de coordonner ce qu'on fait au niveau des 0 à 25 ans. On a aussi engagé une animatrice jeunesse qui s'occupe spécialement des jeunes parce qu'il y a un grand groupe de jeunes. Et puis, je travaille en collaboration avec Steve Emmett, qui vous salue bien. Je sais qu'il a de l'affection pour vous parce qu'il est issu d'ici. Il m'a raconté un petit peu. Et il est très fier de toujours maintenir le record, il paraît, d'avoir été le conseiller le plus jeune, puisqu'il a été dans le conseil d'anciens à 26 ans. C'est pas très ancien, hein, mais c'est à 26 ans. Alors, il m'a dit, voilà, tu salueras bien l'Église. Voilà, alors c'est bien d'être maintenu dans une ambiance où les enfants ont leur place. Si jamais tu as présenté la question des enfants, pourquoi est-ce qu'on doit venir au culte d'une manière qui est très encore idéaliste, parce que c'était presque « Dis, père, pourquoi devons-nous aller au culte ?» Alors tu découvriras que le ton sur lequel il nous demande pourquoi un de l'occulte, il est moins... Il est un peu plus Jeannette Jamard, quoi. Et puis il faut maintenir, donner du sens à nos réunions pour que nos enfants y trouvent un très bon élan. Tu verras au fur et à mesure comment... Voilà, qu'est-ce que je peux dire sur moi encore pour que vous soyez à l'aise de m'entendre pendant un petit moment. Je suis prof de gym de formation et de maths. J'ai enseigné un petit peu et puis après j'ai réalisé que j'aimais encore plus emmener les gens dans quelque chose qui tenait compte de la foi. Alors je me suis impliqué au Fabricant de Joie et puis comme pasteur jeunesse de mon église à Échalon. Et je travaille maintenant plus dans l'enseignement. Je travaille à mi-temps, enfin à 60% comme pasteur dans l'équipe pastorale à Échalon. Et puis à 40% d'une association que j'ai créée avec une équipe qui propose des interventions et des formations qui visent à développer le potentiel des gens. Donc ils sont, évidemment, ce qu'ils sont en équipe. Alors on travaille avec des entreprises, enfin partout où les gens travaillent en équipe finalement, dans certains comités ou conseils, dans les milieux de l'église, parce que je le connais, puis que je suis d'accord de mêler la dimension spirituelle à tout ça. Mais le plus en fait dans des entreprises, des institutions, dans les classes des écoles aussi. Là partout des gens doivent fonctionner en équipe, et puis que ça aide d'amener des éléments, des valeurs qui apportent de la cohésion. Voilà, je suis marié et j'ai 3 enfants qui ont 15 et 13 ans. Il y en a 2 qui ont 13 ans. Pour ceux qui disent, c'est pas logique, ça joue pas. Je viens de vous dire que j'étais prof de gym et de maths, donc il faut quand même que ça joue. Éphésiens 6, est-ce qu'on le relit quand même, puisque c'est le thème qui vous porte dans cette armure du chrétien. Ça dit tout ça, Éphésiens 6, c'est les versets 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole, elle est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà, alors dans toute cette description de l'armement, de ce dont on doit se revêtir en tant que soldat dans l'armée de Dieu, eh bien, il y a ce casque du salut. Alors vous avez remarqué que chacun de ces objets, il n'a pas seulement un nom, il a aussi une caractéristique. C'est pas l'épée, c'est l'épée de la parole. C'est pas seulement le bouclier, c'est le bouclier de la foi. Et notre casque aujourd'hui, eh bien, c'est le casque du salut. Et il n'est pas présenté comme étant quelconque au milieu de l'armée, c'est celui du salut. Et c'est quand même fondamental, central, de se poser sur notre salut. Et ben, c'est complètement logique de l'avoir présenté comme étant le casque qui protège la tête. Il a déjà mentionné l'endroit de nos pensées, l'endroit central. Si vous recevez une flèche dans le bras, vous pouvez peut-être continuer à avancer. Si vous recevez une flèche dans la tête, alors là, c'est la fin. Et le casque du salut, il nous offre une protection qui est le centre de ce qui doit être notre vie. Et on ne peut pas parler de ce casque du salut et de Éphésiens 6, 13, là, sans le joindre à l'autre verset qui nous parle du casque comme étant lié au salut, c'est 1 Thessaloniciens 5, les versets 8, 9. Mais nous qui sommes du jour, parce que l'auteur parle juste avant de comment certains se comportent dans la nuit, mais nous qui sommes dans la lumière, soyons sobres, ayons revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. Et c'est repris et sans, ayons pour casque, mais nous ici, ayons pour casque, pas des affaires qui nous permettent de nous amuser, mais le casque du salut. La suite de 1 Thessaloniciens 5, là justement, ça dit, en effet, Dieu nous a prédestinés à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi les uns les autres, comme vous le faites déjà. Il est temps de s'encourager à porter ce casque du salut. Alors le casque du salut, il nous rappelle que dans nos pensées, on doit rester comme ancré, établi dans le fait que le salut est là, ce qui nous a été donné en premier par Jésus. Vous avez remarqué les autres armes, celles, par exemple une épée, plus on utilise, plus on devient capable de l'utiliser bien. C'est une arme avec laquelle on doit devenir agile. Un bouclier aussi, si vous le tenez mal, si vous ne le tenez pas au bon endroit, eh bien, il n'a pas d'effet. Un casque, par contre, on n'a pas besoin de se battre pour apprendre à l'utiliser bien. La seule chose qu'on doit faire, c'est le mettre. Autant il faut s'entraîner pour une épée, autant pour un casque, il faut faire un choix. L'accepter et le garder. Alors là, on peut sortir notre formule Yaka, porter le casque du salut. Et ça paraît simple. Par rapport à certaines batailles que Dieu nous appelle à remporter, celle-là, l'espérance du salut, elle est déjà remportée. C'est un cadeau, la facture a été payée, c'est soldé, c'est gagné d'avance, ça nous est donné. On n'a pas à se battre autant dans nos vies. On est appelé à nous battre pour certains enjeux qu'on doit encore remporter. Cette bataille-là est déjà remportée. Quelqu'un a prié tout à l'heure que Satan n'aura pas le dernier mot. En fait, on peut le dire au futur, on peut le dire au passé aussi, Satan n'a pas eu le dernier mot. Il a essayé avec Jésus, mais il a été vaincu. On peut aussi le dire au présent, aujourd'hui, Satan n'a pas le dernier mot. Et porter ce casque comme une assurance, comme quelque chose qui est déjà établi, pour lequel je n'ai pas besoin de me battre. Comme une acceptation que je peux vivre ma vie, me tenir devant Dieu avec assurance, parce qu'il m'offre un casque. C'est un cadeau. Le salut n'est pas à accomplir, il n'est pas devant nous, il n'est pas à faire ou à bâtir, il est derrière nous, déjà là, soldé, réglé, assuré par le Christ à la croix et le tombeau vide. Alors le jour où il y a un doute qui vient parce qu'ils viennent, eh bien sachons nous placer sous ce casque du salut et répondre avec la foi. Le jour où il y a des questions qui viennent sur la vérité, ben, sachons opposer à ces questions qui visent à semer le doute, une assurance qui vient. Parfois, il y a de la lassitude aussi qui peut nous ralentir ou bien comme souffler cette flamme qui devrait être ravivée en nous. Eh bien, sachons opposer la ferveur. Toutes ces choses, c'est l'esprit qui vient les affirmer en nous. Et c'est l'assurance que nous donne, c'est l'assurance d'avoir ce casque du salut sur la tête. Je rentre d'une semaine de ski, je fais partie du 17% de Suisses qui ne portent pas de casque sur les pistes de ski. Là, je suis encore fidèle à mon bonnet. Et il paraît qu'on est 17%, 20 en Suisse romande et seulement 14 en Suisse allemande. Et oui, on est un peu plus rebelle pour ça. Et puis, vous aimez le hockey? Je suis désolé pour Lausanne, qui malheureusement vit son démarrage en play-out. Ça m'a toujours fait rire, les hockeyeurs, ils ont un casque super, et leur sangle, elle est comme ça, elle pend, et en fait, lorsqu'ils tombent, ils perdent leur casque. C'est drôle d'avoir un casque et puis de ne pas s'assurer qu'il tienne. On a chanté tout à l'heure, « Comment est-ce que je pourrais pas t'abandonner ma vie ?» Elle est drôle, cette chanson, et de dire ça, d'être vraiment honnête en disant, « Mais comment je pourrais ne pas tout donner ?» Franchement, c'est une question un peu rhétorique, parce que la réponse, on en a plein. Il y a tellement de façons de laisser tomber son casque. On peut s'endormir à côté et puis vivre une vie passive. On peut au contraire jouer au fou qui essaie de remporter les victoires par lui-même et se prive de son casque. On a plein d'idées comment faire en fait. Alors que ce qu'on est invité à faire, c'est le prendre, s'assurer, faire un vrai choix pour le Seigneur et puis rester dedans. Mais c'est difficile. Et on va voir trois éléments qui rendent la chose difficile. La première, c'est le monde autour de nous. J'ai lu ça quelque part. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être encore sauvé? Les magasins alimentaires nous ont sauvés de la famine. Les assurances, et là on connaît bien en Suisse, nous ont sauvés de l'insécurité. Les boîtes pharmaceutiques, qu'on connaît bien aussi en Suisse, nous ont sauvés de la maladie. Les chaînes de télévision Bon, on les connaît aussi en Suisse, mais pas forcément comme étant celles qui sont les plus à la mode, nous ont sauvés dans l'ennui, enfin presque. Les smartphones nous ont sauvés de la solitude, presque. Alors je vous le demande, de quoi est-ce qu'on aurait encore besoin d'être sauvé? Le monde, il va dans une direction qui fait que il semble qu'on n'a pas besoin de s'occuper de ces choses, de notre salut, de ce qui vient après. Il nous emballe dans un rythme qui fait qu'on s'amuse, qui fait qu'on se divertit, c'est ça, qu'on passe beaucoup de temps dans notre travail. Il y a différentes courses dans lesquelles on est comme encouragé, et puis il semble qu'on n'a plus besoin de s'occuper du salut. Et c'est vrai, autour de nous, il y a comme une course qui fait, lorsqu'on tire la manche de quelqu'un en lui disant « Mais c'est quoi qui fait le sens de tout ça ?» Eh bien, ils ne sont pas nombreux à s'arrêter. Mais de plus en plus, en fait. On est dans une période où cette réflexion autour de la spiritualité, elle augmente. Elle augmente même fortement. La réflexion autour des églises, ça ne s'intéresse pas les gens, mais autour de la spiritualité, oui. Le deuxième élément qui nous rend la tâche difficile, c'est l'ennemi qui cherche vraiment de tous les moyens de nous attaquer à ce niveau-là, de nous dire qu'on n'est pas digne de ce salut-là, que ce casque, en fait, on ne doit pas le revêtir, on doit le gagner. Et parfois, on tombe dans ces pièges à essayer de mener une vie pour qu'on soit assez plaisant devant Dieu, pour qu'il puisse nous recevoir. Et on tombe dans toutes sortes de choses qu'on ne devrait pas connaître dans l'Église, dans la compétition, la comparaison, l'acceptation conditionnelle, etc. Et Dieu, l'ennemi se réjouit de pouvoir entretenir ça d'une manière qui, malheureusement, nous tire vers le bas. Ce que Satan n'a pas réussi à empêcher d'être vrai, il essaie de nous empêcher d'y croire. Ce qu'il n'a pas réussi à empêcher d'être vrai, il aurait voulu que Jésus ne puisse pas vivre son ministère pleinement. Il a essayé de l'arrêter de tous les moyens, jusqu'à croire qu'il avait gagné sur la croix. Mais il n'a pas réussi à gagner ça. Et aujourd'hui, ce salut, il existe. C'est la vérité. Alors, il essaie de nous empêcher d'y croire, de semer le doute. Ce qu'il n'a pas réussi à empêcher d'être vrai, il essaie de nous empêcher d'y croire. Et pourtant, il a déjà perdu quelque part, mais il pourrait encore nous agir au travers de nos pensées, justement, pour nous faire douter. Alors, lorsque vous êtes assailli de doutes par rapport à qui vous êtes, par exemple, votre caractéristique, votre sensibilité, en disant, mais est-ce que Dieu, le Dieu de l'univers, il s'intéresse vraiment à moi, comme je suis? La réponse, c'est oui. Il faut porter ce casque comme une assurance. Si vous venez à douter de votre raison d'être, ici, vos compétences, ce que vous êtes appelé à apporter comme contribution dans l'Église ou dans le monde, est-ce que le Dieu Tout-Puissant pourrait choisir de collaborer avec quelqu'un d'aussi imparfait que moi? La réponse est oui. C'est la vérité, il faut porter ce casque comme une assurance. Lorsque vous doutez aussi de « est-ce qu'il y a un chemin qui s'ouvre devant moi, une destinée, des projets prévus d'avance ?» La réponse est oui. Il faut réussir à rester comme sous la couverture, cette protection, cette assurance. Parce que c'est vrai que ce n'est pas logique que si Dieu avait choisi de faire tout seul, il pourrait le faire. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de composer avec notre patte humaine, avec nous, nos imperfections? Ben, il a choisi. Et aujourd'hui, ce n'est pas à nous de remettre ça en doute. Et ce n'est pas, surtout pas laisser à l'ennemi l'occasion de maintenir ce doute en nous, mais de s'asseoir dans cette position-là, avec cette autorité de revêtu d'un casque. Alors j'ai présenté deux éléments extérieurs. Il y a le monde qui vient nous chercher, nous emmener dans une course. Il y a l'ennemi qui vient nous semer le doute. On aime bien ces combats-là parce qu'ils sont extérieurs. On dit « Attends, il faut que je fasse attention à ceci, il faut que je fasse attention à cela ». Mais je ne veux pas quand même nous épargner pour le troisième point, parce que la troisième personne qui nous joue des tours, c'est ce doigt-là, c'est souvent facile de le pointer hein, sur plein de gens. Mais c'est moi, dans ma nature, j'ai tendance à me laisser emmener dans justement de la passivité. C'est en moi, c'est dans ma nature qui est, qui reste humaine, où je laissais de laisser de moins en moins de place à Julien en moi, mais laisser plus de place à Christ en moi. Mais c'est un chemin. Et aujourd'hui, on va reconnaître qu'il y a encore beaucoup de combats à ce niveau-là. Ce casque qui m'a été offert, est-ce qu'il est toujours en ma possession? Certains pourraient tomber dans le piège de dire « c'est tellement précieux que je le mets dans un coffre-fort ». En Suisse, on aime bien faire ça. On le met dans un endroit où on est sûr qu'il ne sera pas abîmé. Mais franchement, un casque, s'il reste par terre, dans une armoire ou dans un coffre-fort, c'est pas là qu'il devrait être. Ou bien alors, une autre façon de le faire, c'est que je le porte, un casque, pour aller me promener en ville, ou pour aller faire la sieste, je porte mon casque, mais d'une manière qui n'influence pas ma vie. Alors si le premier défi, ça a été de s'approprier ce casque, le prendre comme quelque chose qui me pose dans mon identité, me donne une destinée qui est autre, eh bien le deuxième enjeu, c'est « et alors ?» Il ne s'agit pas juste de porter ce casque. C'est comme ceux qui portent un baudrier, vous savez ce qu'on met pour ceux qui font de la grimpe, de l'escalade ou du rappel. Ben, on a un baudrier comme ça. Est-ce qu'il sert à quelque chose ce baudrier tant qu'on n'est pas suspendu à une corde? Il sert à rien. C'est au moment où on se suspend vraiment qu'on dit « ah ben là j'ai bien fait de le mettre ». Et parfois on porte ce casque pour mener une vie comme les autres. Alors que ce casque, c'est pas pour le recevoir qu'on doit amener une vie qui est différente. C'est parce qu'on l'a reçu que ça doit changer. Ça change tout de se dire, tiens, pour que je puisse être digne de le recevoir, il faut que j'aligne ma vie avec les standards de Dieu. Mais parce qu'il a choisi qu'il me le donnait, alors ça devrait tout changer. J'ai vécu, on emmène tous les deux ans une équipe de jeunes dans une expérience missionnaire à court terme. Et puis on était en Thaïlande il y a quelques années, on a choisi de vraiment honorer on était dans des petites régions où on servait un ministère qui aide des paysans, donc on était vraiment dans la nature. Quand on est arrivé, le responsable nous a dit « n'allez pas trop de ce côté, parce qu'en fait là c'est la frontière avec la Birmanie, puis il y a des rebelles armés ». Je dis « ah non, on n'ira pas ». Et puis de ce côté-là, n'allez pas non plus, parce qu'ici il y a des tigres. Je dis « non, on n'ira pas non plus, on va rester ». On était vraiment d'une région, voilà. Et puis on a choisi d'honorer la culture, et puis de faire attention dans ce qu'on portait comme habit, et puis toutes sortes de choses. Et dans les derniers jours, on a pris 2-3 jours de bilan, de débriefing, pour fixer les choses importantes qu'on avait vécues. Et puis là, on était dans un contexte qui était un peu plus touristique. Et des questions sont montées dans l'équipe, même l'équipe de responsables. Est-ce que c'est OK si on boit une bière dans ce cadre-là? Et on avait choisi de ne pas boire d'alcool, et en Thaïlande, c'est vraiment l'Église a fixé ça comme un standard. Donc on a honoré comme eux vivaient les choses et on n'a pas fait. Et puis il y a eu une grande discussion. Est-ce que maintenant on peut faire ça? Et puis plusieurs responsables disaient, mais c'est dommage pour nos jeunes de leur donner l'idée que dans l'Église, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et puis on ne peut rien faire. Et puis on doit leur montrer qu'on peut vivre aussi, etc. Et pour finir, on a choisi que non, on continuerait avec nos standards. Et puis on l'a communiqué à notre... On avait un traducteur. Et le traducteur, il nous dit, je suis content que vous ayez choisi ça, parce qu'en fait, je ne vous aurais pas laissé faire. Parce que moi, en tant que représentant de Jeunesse en Mission qui vous accueille ici, si une de mes équipes boit de l'alcool, mais les gens, ils vont penser quoi? Puis dans notre tête, on a dit, ils vont penser qu'on est assez décontracté. C'est pas grave. Enfin, chez nous, c'est pas grave. Et puis lui, il nous répond, mais si ils vous voient, d'abord ils savent qu'on est chrétiens parce qu'ils nous ont entendu prier, chanter avant les repas ou des choses comme ça, ils vont croire qu'on mène la même vie qu'eux. Et moi, ça m'a fait tilt ce jour-là. En Europe, on est plutôt en train de monter. Il y a une tendance qui tend à faire que l'Église montre qu'on vit quand même assez normalement, comme les gens. Et on essaie plutôt de se rapprocher de comment le monde vit, en disant, mais on n'est pas à se couper de tout. Et puis là-bas, ils étaient plutôt en train de dire, non, nous, on doit montrer que notre vie, elle est différente. Et on n'aime pas trop ça, parce qu'on a peur de, d'un coup, que les gens nous mettent dans un endroit très, très coincé. Alors, ce casque, il doit nous appeler à vivre après une vie qui est différente. Je l'ai présenté jusqu'à maintenant comme un aspect de l'armure qui est défensif, dans le sens où ça nous empêche d'être attaqués, ça nous protège. Mais en fait, le salut nous amène donc quelque chose qui est offensif, qui est de nous engager dans un certain combat. Le salut n'a pas été gagné au moment où les gens sont sortis d'Égypte. Le peuple a traversé la mer Rouge pour sortir d'Égypte. Mais le salut, ce n'était pas s'arrêter là. Le salut, c'est lorsqu'on va poursuivre notre démarche jusqu'à entrer dans le pays promis. Et là, il y a des combats. En fait, si vous regardez bien, c'est, Dieu a agi de la même manière. Qu'est-ce que le peuple a fait pour sortir d'Égypte? Comment est-ce qu'il s'est battu? Est-ce qu'il a produit quelque chose? Est-ce qu'il a gagné quelque chose? Non, c'est tout Dieu qui a fait. Ce qui est arrivé aux Égyptiens, là, les 10 plaies, ils n'ont rien fait. Ils ont laissé Dieu faire. Ils sont arrivés dans la mer Rouge, ils ont laissé Dieu faire. Ça leur a été donné. C'est cadeau. C'est cette partie du salut qui est donnée. Puis après, c'est là que ça se gâte parce que ça dépend plus de nous. Donc ça commence par quelques détours dans le désert et puis entrer dans le combat. Et ce casque-là nous invite à entrer dans un combat, celui de manifester ce qui nous habite d'une manière qui est rayonnante autour de nous. Alors, à chacun de trouver comment être rayonnant, mais force est de constater que ça va nous appeler à marcher un peu à contre-courant, à montrer de l'intégrité. Une fois, j'étais chez Atleticom, et puis quand je suis passé, ils se sont largement trompés en ma faveur par rapport à ce que j'ai payé. Et c'est en rentrant que je me suis dit, mais c'est bizarre et tout. Je suis retourné quelques jours après, et puis ça leur manquait 200 francs. Et puis, je suis allé à la caisse, je dis, voilà, j'ai un problème, l'autre jour, je suis passé, et puis... Alors la dame a dit, mais elle a d'abord pas compris, elle a appelé sa collègue, qui a appelé un sous-chef, qui a appelé le chef, qui a appelé le comptable, pour finir, j'avais tout là. Et puis, il me dit, c'est vous. Je dis, quoi, c'est moi? Il me dit, oui, parce que quand on a fait la caisse l'autre jour, ça jouait pas, et puis effectivement, c'est ce montant-là qui manque. Je dis, voilà, alors, je suis là. Et puis, ils me disent, alors, si vous êtes d'accord de payer, je dis, je suis pas venu ici pour vous dire que si vous êtes d'accord, alors vous pouvez payer. Mais en tout cas, on vous remercie et tout. À ce moment-là, est-ce que j'ai été quelqu'un qui a été généreux, qui a été débordant? Moi, j'ai été juste, c'est tout. Quand il m'a dit, si vous êtes d'accord, juste là, il y avait un truc de choupa choups. Puis j'ai failli lui dire, un peu en rigolant, je dis, si vous m'offrez une choupa choups, je suis d'accord. Puis je me suis retenu parce que je me suis dit, mais en fait, je mérite encore rien, j'ai rien fait de plus que ce qui est juste. Mais force est de constater que dans le monde qui nous entoure, d'être juste, c'est déjà un témoignage. D'être honnête. Il n'y a pas besoin de faire des exploits, mais d'être rayonnant dans ce qu'on est. Et c'est drôle parce que du coup, je n'ai pas demandé ma choupa choups, j'étais d'accord de payer. Au moment de payer, je lui tends ma carte, elle me dit, mais vous n'auriez pas du cash, parce qu'en fait, si on entre maintenant ça, c'est... Puis je dis, il y a un beau comme à ton bas. Je dis, d'accord. Donc j'ai encore dû aller. Et quand je suis revenu, elle me dit, alors pour vous remercier, on aimerait vous offrir un bon de 50 francs pour une autre fois. J'ai dit, ça j'accepte, parce que c'est votre choix de me faire un cadeau, et je le prends comme un cadeau, pas comme un dû. Mais ce genre d'attitude, c'est marcher d'une manière qui est digne de ce casque-là, sans forcément imaginer des exploits. Quand je rends service à un voisin, quand je dis une parole sympa à un de mes enfants, quand je prends dans les bras quelqu'un qui est triste, quand peut-être que j'ai une parole d'encouragement, peut-être pleine de spiritualité ou pas, à quelqu'un qui en a besoin, je suis dans cet élan-là de manifester les choses, de ne pas être passif avec mon casque. Le premier défi, c'est effectivement de l'avoir, mais le deuxième, c'est de marcher d'une manière qui fait que ce casque sur ma tête, il est utile. Il me sert à quelque chose. Nous sommes appelés à être sel et lumière. Hein, c'est Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et les pensées, justement, c'est ce que protège en premier notre casque, qui nous en donne des pensées qui sont alignées avec ce que Dieu aimerait faire sur terre. Et que du coup, cette pensée-là peut nous animer. C'est par sa force qu'on marche. C'est par ses pensées qu'on est conduit dans les bonnes choses prévues d'avance. Et ce casque nous est notre équipement premier pour cela. J'ai lu dans votre truc, par exemple, que vous avez prévu, non, je crois que c'est là, d'avoir une activité dans le cadre du service Pâques. Alors c'est l'occasion de vous revêtir d'un casque qui est l'espérance du salut. Et à Pâques, c'est bien l'occasion de le manifester, de manifester notre espérance d'une manière qui rejoint les gens. Alors ça peut être confessionnel, dans le sens où on professe quelque chose, et ça peut tout à fait être d'une manière qui ne parle pas du tout de ça, mais qui traduit, qui donne de la lumière, quoi, qui amène quelque chose de positif, de bon, là où vous êtes. Personnellement, j'apprécie travailler à mi-temps dans l'église et à mi-temps d'une association où je rencontre des gens qui travaillent, qui ont des collègues, qui tous ces défis qui sont de la vie de tous les jours, et on peut apporter quelque chose qui est vraiment d'une autre source. Ce n'est pas juste humain, mais c'est simplement notre foi qui est notre moteur dans ce qu'on fait, sans forcément en parler, mais parce que ça change tout d'avoir une arme comme ce casque que l'on décrit ce matin. Alors je vous encourage, dans ceux qui seraient dans cette difficulté ou ce défi, de vraiment accueillir ce casque comme étant l'acceptation du salut, ce salut que Dieu nous offre et pour lequel on n'a absolument pas besoin de se battre, et de pouvoir être comme détendu dans la présence de Dieu et avoir une interaction avec Dieu qui est riche, parce qu'il n'y a pas ce défi-là, il est déjà remporté. Alors à tout cela, je prie que vous puissiez, par la vérité, hein, c'est notamment en s'ancrant dans cette vérité-là, quand on m'a demandé de prendre la parole ici, je vous encourage à prendre la parole. Celle-là, pas seulement les choses qu'on entend à gauche, à droite, mais de prendre la parole. Et puis les autres, eh bien peut-être vous aurez l'occasion de prendre la parole. Ceux qui sont plutôt dans la phase du défi de maintenant, être actif avec ce défi-là. Être actif pour porter un témoignage. Et puis vivre une vie qui est différente. Et puis qui interpelle et nourrit les gens qui sont autour de nous. La seule fois où je suis déjà venu dans votre église, c'était dans le cadre de la préparation du freestyle, c'est ce rassemblement jeunesse qu'on a organisé plusieurs années de suite pour rassembler et encourager la jeunesse de la Fré. Et puis on avait fait une rencontre de préparation ici, parce qu'on avait les adultes ou jeunes adultes responsables. Et une des choses dans lesquelles on les a emmenés, c'est de quelques défis, parce que c'est un week-end où on emmène les gens dans la pratique. Et on leur a lancé un défi fourbe. Et on leur a dit, voilà, ça c'est le défi fourbe. Vous devez aller le plus vite possible au cinéma du coin là-bas, le moderne, et puis apprendre par cœur le nom des actrices qui jouent. Et vous devez revenir ici. Et l'équipe qui aura gagné, c'est l'équipe qui a retenu le plus de noms. Et c'est des jeunes adultes, c'est pas des ados. Hein. Normalement, ils sont censés être... Il y a adultes dans jeunes adultes. Donc, avoir un petit peu de... Mais les trois corps ont foncé comme des grands et ils ont couru là-bas pour remporter ce défi-là. Et ils sont revenus en disant des prénoms. Puis il y en a quand même quelques-uns qui ont dit « Ouais, mais c'est un peu bizarre de nous mettre le nez sur ces affiches. » Et puis pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé le défi fourbe ? Et parfois, dans nos vies, on doit... Alors, on les a mis en face de ça pour qu'après... Disent, mais est-ce que vous pourriez être un tout petit peu plus ancré dans qui vous êtes pour ne pas prendre ce qui vient, mais de laisser vos pensées être dirigées par quelque chose de plus grand, une destinée, mais aussi une ligne de conduite qui fait que votre vie elle est différente. Parce que c'est dangereux de ne pas porter un casque. Je ne le dis pas pour le ski, hein, je le dis pour... Est-ce qu'on a le droit d'être encore incohérent à certains niveaux ? Voilà, je vous raconte une dernière histoire. Chez nous, on avait des cochons d'Inde. Mes enfants aimaient bien avoir des petits animaux. Et moi aussi, ça leur apprend à gérer tout ce rapport au vivant. Et puis, voilà qu'ils ont des petits. Et puis, ils sont nés. Et ils sont nés dans une cage qu'on met dehors, dans le jardin. Comme ça, elle n'a pas de fond. Ils mangent l'herbe. Il ne faut juste pas oublier de déplacer la cage de temps en temps. Sinon, ça fait des carrés où il n'y a plus d'herbe. Et puis, cette cage, elle avait des barreaux qui étaient assez écartés. Et puis, les petits... Eh bien, ils paraissent très touffus parce qu'ils ont beaucoup de poils, mais en fait, ils sont tout petits et il y en a qui sont passés au travers de ces barreaux. Et on se demande parfois si la vie chrétienne ou l'Église, ça nous donne comme une prison. On dit voilà, il faut ceci, il faut pas cela, et puis là, et puis là, et puis ça nous fait comme une prison. Et eux, ils sont sortis, et puis malheureusement, ben, tout à coup, mon épouse a vu une pie qui s'agitait dans le jardin. Et puis, il y en a deux sur les quatre qui se sont fait manger. Et quand on me demande, est-ce que la vie chrétienne, c'est comme une cage? Eh bien, peut-être qu'on peut répondre oui. Pas dans le sens d'une prison, mais dans le sens d'un lieu où on vit en sécurité. Si tu restes dans la pensée de Dieu, alors ça t'offre un casque qui est d'une sécurité. Là, tu peux t'épanouir et vivre en pleine sécurité. Sauf que cette cage à lapins, elle n'est pas comme ça. Elle est grande. Dieu nous a donné beaucoup de liberté. Mais il nous a aussi dit, il y a des choses, si vous en écartez, alors vous êtes en danger. Sauf que lorsqu'on fait ça, nous, on ne se fait pas manger par une pie tout de suite. Mais c'était un peu comme ça dans l'Ancien Testament. Hein. Il y en a quand même qui ont, lorsqu'ils n'ont pas obéi, ça a été... Peut-être que ça nous aiderait de temps en temps que ça se passe. Ça nous ferait un peu tilt. De dire, ah mais tiens, là je suis en train de vivre d'une manière qui ne va pas. Et puis là, ça nous ferait réfléchir. Alors que si on doit être, c'est la lumière. Peut-être parfois notre lumière, eh bien on la laisse s'endormir petit à petit. Elle s'affaiblit, elle s'éteint. Mais en fait, c'est quand même la mort à la fin. Alors que Dieu puisse nous conduire dans une destinée où, avec ce casque, on peut rester vraiment enflammé, rayonnant de ce qu'on a autour de nous, avec beaucoup de liberté et puis aussi du respect pour tout ce dont il nous a déjà nourri et qui nous invite à garder. Amen.